Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Avec Sylvain, Elisabeth Fett et Jean-Simon Buis.
Bouchard en parle, au FM 93.
14h01. Bienvenue dans Bouchard en parle. Comment ça va?
Très bien.
Toujours bien.
Ah ouais? Mm-hmm. Ben, vous me direz comment vous faites. Là. Donnez-moi vos trucs.
L'optimisme.
Pour bien aller, avez-vous entendu Legault?
Oui. Mm-hmm.
L'avez-vous vu surtout?
Oui. On a vu la conférence.
Ah, non. Évidemment qu'il a parlé, puis on va vous résumer un peu ce qu'il a dit. Là. Mais le gestuel, là, Legault avait l'air tendu aujourd'hui. Avez-vous remarqué ça ou c'est moi qui capote?
J'ai pas remarqué, honnêtement. J'ai pas vu une différence tant que. Mais peut-être que j'ai pas porté attention. Là, mais...
Moi, j'ai vu une différence dimanche. Je peux dire, dimanche, quand il y avait plutôt des bonnes nouvelles à nous présenter, je trouvais qu'il y avait l'air détendu. Mais
ouais. Exact.
Je suis pas capable de dire à quel point, là, par rapport à hier ou d'autres journées, il était plus tendu. Tu as peut-être raison, là, mais je l'ai pas remarqué particulièrement aujourd'hui.
Quand il a dit. Parce que moi, ça va pas bien. Mais, regarde, peut-être que le show va faire en sorte que rester avec nous autres, là, ça va peut-être mieux aller. On va s'encourager. J'ai eu des bonnes nouvelles. Il y a des affaires le fun que j'ai hâte dont j'ai hâte de vous parler. Mais quand Legault a dit, et moi, je regardais comme faux, là, il l'a répété deux fois parce qu'il l'a dit, je pense, en anglais aussi, là, puis je le comprends, là. Tu sais, je sympathise avec lui, là. On essaie de comprendre un peu ce que ces gens-là doivent vivre, nos dirigeants. Là. Trompez-vous pas, là, c'est pas une critique, mais tu sais, quand il a dit « J'ai appelé Doug Ford, puis l'Ontario va nous envoyer du matériel. » C'est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Merci aux Ontariens de nous aider. Mais c'est aussi un genre d'aveu d'échec. Là. L'Ontario va nous backer. Parce qu'on va en manquer. Alors, c'est là que j'ai senti des signes de tension un peu, là. Tu sais, le docteur Arruda le dit, puis Legault aussi, on comprend ça. À chaque matin, ils doivent se lever, puis ils doivent avoir hâte d'avoir le chiffre du nombre de cas. Hein, ils en ont déjà parlé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un autre chiffre qui les stresse à tous les matins en se levant. Il en reste combien de masques? Tu sais, Legault doit demander ça à Arruda ou à McCann ou je sais pas, là, tu sais, comment, qui au juste est responsable de la fourniture des équipements, mais il en reste comment? Et là, aujourd'hui, il l'a avoué. Il en reste peut-être pour 3 jours. Là, ça va pas bien.
Ben là, on est à la désinfection, si j'ai bien compris. Là. La ministre McCann a beaucoup tapé sur ce clou-là, désinfecté les masques.
Les visières aussi.
Oui, ce qui semble un peu inquiéter des travailleurs de la santé. J'ai vu ça passer sur Facebook un peu. Il y a beaucoup de travailleurs de la santé, des préposés qui se posent réellement la question, comment ça, désinfecter? On n'a jamais entendu parler de ça. C'est vrai que la question du matériel, plus que la hausse des cas en tant que telle, devient peut-être le centre de notre attention présentement.
Bien, jumelé avec la hausse des cas, on est rendu à plus que 4200. Là.
4132, c'est ça? Ouais. Pas loin de 4200, t'as raison.
C'est 4132. On est pas loin de 4002. Et je regardais comme faux là, les plus récents, là. Là, maintenant, il y a plus de cas à Montréal que dans tout l'Ontario. Si j'ai les bons chiffres.
Oui, tu te trompes.
Vous avez les mêmes chiffres que moi, là. Mmh.
Tu te trompes pas, puis c'est de loin la ville canadienne la plus touchée au Canada. Oui.
Non, ça va pas bien. Honnêtement, mais avant de. 5 minutes avant de rentrer en onde, ça allait vraiment pas bien. Puis ce qui m'a boosté un peu, savez-vous, c'est quoi?
Quoi?
Je pense qu'on va orienter le show vers ça un peu. Parce que là, si vous attendez à ce que je chiole puis que je critique pendant 4 heures, oubliez ça. Ça donne rien, c'est contre-productif. Êtes-vous d'accord avec moi?
Ben oui,
c'est ça. C'est à faute de qui, là? Parce qu'on manque de masques. Gardez, je sais pas. OK, dans 2 mois, on en parlera. Dans 2 mois, j'ai bien aimé, le docteur Arruda le dit aujourd'hui, là. Tu sais, il dit, on fera les évaluations plus tard. Puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Y a-tu eu des erreurs? Moi, je suis d'accord avec docteur Arruda, là. Là, faut serrer coude puis faut travailler. Et ce qui m'a rendu de bonne humeur, un peu. Puis, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. On fait le constat que le nombre de cas augmente, puis qu'on va peut-être manquer de matériel médical. On a 2 choix. On chiale, on crie. Ça, on est bon là-dedans, êtes-vous d'accord? Mm-hmm. On est toute la gang. Ou on se serre les coudes et on en fait du matériel médical. On en produit. Legault a lancé une invitation. Aux Québécois, vous avez entendu ça?
Oui.
Aux entreprises québécoises. Ben, regarde, 5 minutes avant que je rentre en onde. Fait que là, ça se fera peut-être pas aujourd'hui, mais demain, là. Des gens m'ont contacté pour dire, hey, on est dans tel domaine, on a des imprimantes 3D, on a tout ce qu'il faut, on a du matériel, que moi, je connais pas ça pantoute, là. Mais ils me disent qu'ils ont ce qu'il faut pour fabriquer des visières, à qui on parle, à quel hôpital, on s'est jasé, on est un regroupement, puis j'ai répondu, là, donnez-moi un peu de temps, je vais essayer de vous aider, je vais essayer de vous parler en monde. Si ça peut donner l'exemple, vous me suivez?
Ouais.
Oui.
Moi, je pense que, dites-moi, c'est mon opinion, là, je pense que c'est l'attitude à avoir ces temps-ci.
Absolument. Comme exactement en période de guerre, les usines ont été transformées pour fabriquer des munitions. C'est exactement ce qu'on vit présentement. Et Justin Trudeau l'a mentionné aussi, là, qu'il allouait 2 milliards de dollars pour l'achat et la fabrication d'équipements médicaux au Canada. Je pense que c'est la manière dont on est en train de transformer notre économie qui va sauver ça. Puis ça se fait déjà en France, en passant. J'ai vu une vidéo dans certains hôpitaux où il y a des imprimantes 3D et où on fabrique des visières. On a la chance d'être en 2020. Et d'avoir la technologie qui nous permet de faire de l'impression 3D qui, il y a ça 10 ans, était encore de la science-fiction. Faut réaliser que ça joue vraiment en notre faveur. La technologie est de notre côté. Et ça, c'est ce qui me rassure dans tout ça. Là. Peu importe les chiffres, le manque de matériel, le niveau de technologie a jamais été aussi élevé dans l'histoire humaine. Et ça, je pense que ça peut nous garder optimistes malgré la crise et l'ampleur des chiffres qu'on a à chaque jour.
Parce que la façon que je vois ça, là, ça c'est ma crainte, ma peur, quand je vous disais tantôt ça va pas, c'est parce que j'ai pensé aux infirmières, j'ai pensé à tout le monde qui travaille, les préposés, dans le milieu de la santé. Et l'image qui m'est venue en tête, savez-vous, c'est quoi? On va bientôt les envoyer au combat, pas de fusil.
Oui.
Hey, OK, allez-y, allez vous battre! Ouais, mais c'est parce que général, au lieutenant, sergent, on n'a pas de casse, puis on n'a pas de fusil. Ouais, mais pas le choix. Ah ouais, au front. Hey, attends un peu là. Déjà qu'on en manque, là, on crée une pénurie. Mais bon, face à ça, deux attitudes. Là, il y a des gens qui vont peut-être déserter. Il y a des gens qui vont se mettre à protester, à chialer. Puis t'en as d'autres qui vont se dire, OK, on n'a pas de fusil. Bon, on va s'en trouver. On va se retrousser les manches, puis on va s'en trouver des fusils. Et quand la guerre sera finie, on posera des questions. Là, ça sera peut-être le temps de dire, comment ça que vous avez manqué de fusils au cours de tel moment de la guerre? Vous êtes d'accord avec moi?
Ben oui.
On aura du temps en masse, les amis. Entre-temps, puis je m'adresse à vous, là, à tout le monde. Ben, pas à tout le monde, il y en a qui ils ont pas ce pouvoir-là, mais il y en a qui peuvent. Là. 25-226. S'il y en a qui sont là-dedans, j'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça peut-être juste mentionner, ça va nous encourager, dire hey, telle gang de Québec, telle entreprise, on a besoin de masques, on a besoin de visières. Jean-Simon avait un excellent point. La technologie est là. Moi, les gens à qui je parle, là, ils sont pas nécessairement dans le domaine de la santé, mais ils ont la technologie. Je sais pas si vous comprenez. Oui. D'habitude, ils font d'autres choses. Puis là, hier, ils se sont tous parlé, puis ils m'ont contacté pour dire hey, nous autres, là, on serait prêts à produire. Comment ça marche?
Autre exemple qu'on a dans les derniers jours, dernières semaines, de transformation d'industrie, les distilleries comme Pure Vodka, les microbrasseries comme Pete Caribou,
Nicolas
qui ont
dit, Vernois,
on va prendre notre alcool puis on va faire du gel. Ça
du
vient,
purel,
et ça part de la base.
Du désinfectant.
Ouais.
Exact. Ben,
oui. Et ça, c'est le plus beau de la crise présentement, c'est de voir nos entrepreneurs qui, d'abord, pour qui la créativité était le point de départ de leur succès. Déjà, là, Nicolas Duvernois est un bon exemple. Lui, il a fait de la vodka. Mais sa créativité puis son génie entrepreneurial, puis à tous nos entrepreneurs présentement, c'est ça qui va nous sortir de la crise.
C'est nos
créateurs de richesses, présentement, vont créer les solutions pour qu'on sorte à travers la crise.
Ces entreprises-là acceptent de faire moins d'argent aussi, parce qu'on s'entend-tu que vendre une bouteille de vodka qui est faite par Pure Vodka ou vendre du désinfectant, c'est pas pareil du tout. Bauer aussi, qui s'est lancé dans la fabrication de visières. C'est pas des masques en tant que tels, mais c'est des visières. Fait que toutes ces compagnies-là, Sylvain, ils se disent, à la place d'être chez nous puis pas pouvoir vendre notre produit, on va mettre nos effectifs puis notre talent à disposition des gens qui en ont besoin. Là.
Mais t'as un point super important aussi, Ellie. Tu viens juste de dire, à la place d'être chez nous, hein?
Ouais.
Tu sais, au début, on nous demandait, là, le mot d'ordre, c'était rester à la maison, on va gagner la guerre. Maintenant, on sait que c'est pas suffisant. Je suis désolé. Avoir les chiffres, là, puis là, pourquoi c'est de même? Je sais pas pourquoi il y en a plus au Québec. Votre théorie est aussi bonne que la mienne. Écrivez-moi 25226, je sais pas. Mais là, au Québec, en termes d'augmentation de cas, là, ça va pas bien. Donc, juste rester chez nous, c'est pas suffisant. Parce qu'il y en a probablement qui écoutent pas. Puis qu'ils se promènent, puis bon, faudrait peut-être fermer Montréal, mais ils le font pas. Garde, j'ai pas de contrôle là-dessus. Le nombre de cas, sans dire qu'ils explosent, Hey, ça a doublé en combien de temps? On était à 2000, là, pas longtemps, là.
La semaine passée, en tout cas. Il me semble que c'était vers la fin de la semaine passée.
Oui, on était à 2000. On est rendu en haut de 4000, là. Alors, rester chez nous n'est pas suffisant, les amis. Qui peut aider? Là, évidemment qu'il y en a que... Il y en a que c'est juste ça qu'ils peuvent faire. C'est bien correct, là. Regarde, je l'ai dit tantôt, moi, je peux pas, là, fabriquer des masques et des visières, zéro. Mais il y a des gens à Québec, j'en suis convaincu, qui peuvent aider, puis ils cherchent peut-être juste, là, hey, à qui je parle, là? À qui je m'adresse? Bien là, peut-être que les médias, on peut servir d'intermédiaire. Surtout, je pense qu'on peut servir de bougie d'allumage. On va être bien plus utile en faisant ça qu'en chiolant. Alors, s'il y en a des initiatives, 25-226, je sais que je m'adresse pas là, à l'ensemble du monde, parce que ça prend des gens qui sont dans les business, mais si vous le savez que telle manufacture, telle industrie est en train de se transformer, on a besoin de masques et on a besoin de visières. Je vous rappelle que ce que je vous ai raconté hier sur l'éclosion au Jeff, à l'hôpital, là,
ouais.
Les infirmières qui sont aujourd'hui infectées, contaminées, avaient demandé de la protection et on leur a refusé. Ça, c'est la semaine passée. Comment vous pensez que ça se passe cette semaine? Comment vous pensez que ça va se passer la semaine prochaine? Si on fait rien, on va envoyer du monde au combat sur la ligne de front, pas de fusil. Et ça, je veux pas ça. Là, il va commencer à avoir des dilemmes. Ils en ont parlé au point de presse. Hein? Le médecin qui a pas de protection, il fait quoi? Est-ce qu'il refuse de traiter le patient?
Ouais.
Avez-vous entendu ça?
Mm-hmm.
Je sais pas. Hein? Feriez quoi, vous autres? Vous voyez, le patient, il a besoin de soins, il est atteint de la COVID-19, puis il n'est pas de masque. Vous rentrez dans la chambre ou vous restez dehors? Oh, le mais dilemme! Ah, je veux pas... Il faut pas vivre ça. Faut pas vivre ça.
Il y a question des normes aussi qui a été abordée par Eric en entrevue avec un entrepreneur de Québec, justement, qui, lui, a une entreprise à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui, elle, fait des couches lavables, mais c'est comme trouver des contacts pour essayer de faire venir des masques. Sauf que ce qui ressortait de ça, c'est que les normes pour les masques utilisés par les hôpitaux et les travailleurs de la santé font l'objet de 3 pages de réglementation sur les longueurs, la couleur, le matériel, tout ça. Il va falloir se poser la question aussi, est-ce que c'est... On parle des fameux N95, là, mais y a-tu d'autres types de masques qui peuvent faire la job? T'sais, à base, tu couvres ton visage, là, ça peut-tu faire le travail dans le contexte de crise?
T'es en train de nous dire, entre rien puis N95, y a-tu de quoi?
Exact.
Mettons N50, N30, je sais que c'est pas un bingo. Je sais que c'est pas du bingo, ouais. Ta question est très bonne et moi j'insiste, je sais que les masques, ça va peut-être être difficile, mais ça a l'air que les visières, les médecins s'en font actuellement avec des acétates.
Ouais.
Donc
ouais.
Peut-être que la visière pour protéger les yeux, ça demande moins de technologie, est-ce que ça se peut?
Ben, oui, sûrement, parce que c'est plus facile c'est plus facile de se faire une visière de fortune qu'un masque de fortune, parce que l'affaire, Sylvain, c'est que l'efficacité du masque va varier beaucoup avec le produit avec lequel il est fait, puis comment tu vas le mettre dans ton visage. Par exemple, les travailleurs qui sont les travailleurs de première ligne, présentement les policiers ou les ambulanciers, tu sais qu'ils doivent se raser à la peau le visage pour mettre le masque N95, parce qu'à partir du moment où tu as un minimum de barbe de 3 jours, ton N95 n'est plus efficace parce que l'air va passer entre ta peau et le masque. C'est complexe. Fait que le petit masque de fortune que tu vas te faire en tissu, est-ce que c'est mieux que rien? Peut-être, mais est-ce que c'est efficace et ça va t'empêcher de l'attraper ou de le donner aux autres? Peut-être pas. Tu comprends? Fait que
dans
les
certains
normes,
cas, ils disent qu'un foulard, ça peut quand même... Évidemment, ça te protège pas toi, mais ça va protéger les autres. Tous, ou etc. Ben, tu vas protéger les autres parce que tu as un foulard.
Ouais, bon. Si l'air ne passe pas entre ta peau et le foulard, parce qu'à partir du moment où il y a une petite ouverture de rien, là le virus est dans l'air là.
Ouais, donc exact, je sais. Et là, je veux faire attention là-dessus. Hey, notre collègue, je pense que c'est Louis Lacroix ou je sais pas qui, la première question qui a été posée au PM aujourd'hui était très bonne là. Mais en même temps, sûrement qu'elle a été préparée d'avance là. Savez-vous c'était quoi? C'est le gars venait d'annoncer qu'ils vont peut-être manquer de masques dans 3 jours. Pour le personnel médical.
Mm-hmm.
Et la question à Louis, qui, je répète, était très pertinente, on en a jasé hier. Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager le port du masque dans la population? Tu sais, j'écoutais ça, je disais, excellente question. Pas parce qu'on l'a posée hier qu'elle est excellente, parce qu'il y a beaucoup d'études qui le démontrent, puis Louis avait des sources. Mais en même temps, vous vous rendez compte que cette question-là est déjà malheureusement rendue un peu passée date. S'il en manque dans les hôpitaux, ils diront pas aux gens dans la population, mettez-vous des masques.
Oui, mais dans ce cas-ci, puis Louis l'a rappelé, là, on pourra sûrement entendre la réponse aussi de Dr Arruda un peu plus tard dans l'émission, mais on parlait beaucoup de l'exemple de la République tchèque, par exemple, où est-ce que tu n'as pas le droit de porter des masques pour les travailleurs de la santé, mais on recommande de porter un foulard ou un tissu. Fait que là, et là, même le Dr Arruda l'a dit, là, si vous avez, si vous vous faites un masque de tissu, il n'y a personne qui va vous empêcher de dire que c'est pas bon.
Non.
Là.
Non, je sais, mais il y en a peut-être qui vont être portés à s'en procurer. À s'en... Moi, je pense qu'on n'en est vraiment pas au Québec à encourager. Oui, l'étude, l'exemple tchèque dont faisait référence Louis, c'est bon. Puis là, mais si au Québec, on a une pénurie dans les hôpitaux, moi, je suis convaincu que même si ça serait peut-être utile, ils diront pas aux gens dans la population, mettez-en. Ils vont avoir peur que les gens s'approprient les ressources. Dans un contexte de pénurie, moi, je pense qu'ils iront pas jusque-là.
Sylvain, tu as fait un appel à tous tantôt à savoir si des compagnies de Québec. Ouais. Bon, on va quand même mettre la lumière sur une entreprise de Québec qui l'a fait. L'employeur de mon conjoint, Groupe Baudouin, a fait don de 700 masques hier. En fait, ils l'ont annoncé hier sur leur page Facebook. Alors, bravo à eux.
Ils font quoi, eux, dans la... Excuse-moi, je les connais pas toutes. Là, au niveau des entreprises, des fois, là, on devrait peut-être, mais c'est quoi Groupe Baudouin?
C'est ça que je suis en train de voir là, rapidement parce qu'en même temps, je lisais le texto. Groupe Baudouin, c'est plomberie, chauffage, géométrie et gaz naturel.
Et ils sont à Québec?
Oui, ils sont à Québec.
Et ils ont donné 700 masques?
Oui, à Saint-Nicolas, en fait, pour être précis.
À Saint-Nicolas, oui. OK. Hey, bravo, bravo.
Non, bravo à eux, oui.
Ça, c'est de l'effort de guerre, ça. J'appelle ça un effort de guerre. C'est parfait.
Et ensuite, quelqu'un nous dit, on en produit environ 10 par jour des masques. Et j'inviterais d'ailleurs tous les propriétaires d'imprimantes 3D à s'y mettre. Il y a un grand manque. Alors, je pourrais partager avec plaisir le modèle 3D que nous, on utilise. Alors, elle ne se nomme pas, par exemple, je ne sais pas c'est quoi l'entreprise, si vous voulez nous réécrire, mais bravo de se servir d'une imprimante 3D pour aider.
Moi, les contacts que j'ai, là, dont je vous ai parlé en début de show, c'est ça. Là. C'est des gens qui ont des imprimantes 3D, puis dans leur industrie, puis là, ils veulent faire des visières, puis ils disent qu'ils sont capables, ils cherchent juste la porte à laquelle frapper. Là. Mais ça, c'est notre job aussi. On pourra faire des téléphones, essayer de trouver là, l'endroit où ces gens-là doivent s'adresser. Mm-hmm. 14h18, continuez à nous écrire sur 25-226. On fait une courte pause. On revient.
On vous aide à garder le moral. Le FM 93 et le 47 ont pensé que ça vous ferait du bien un peu de réconfort. On vous offre donc des boîtes gourmandes de Pâques. Vous connaissez une personne qui a perdu son emploi? Inscrivez-la au fm93.com à gagner des boîtes gourmandes du 47 composées de 9 mets pour deux personnes à déguster à la maison livrées le vendredi avant Pâques. S'ils ont des enfants, pas de stress, on va leur arranger un petit quelque chose. Gardons le moral. Mangeons local avec le 47. On attend vos inscriptions au fm93.com.
Quand vous sortirez de chez nous, vous aurez les idées claires, vos nuits seront meilleures et vous verrez enfin la lumière au bout du tunnel. Vous aurez plus de patience avec les enfants et vos amis remarqueront que vous avez quelque chose de changé qui vous va très bien. En sortant de chez nous, non seulement vous n'aurez pas tout perdu, mais vous aurez en main la solution à vos problèmes financiers et vous en serez fiers. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Nous sommes Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, et nous pouvons vous aider.
Oricom Internet est toujours là pour vous. Besoin d'une connexion Internet? Plus vite, moins vite, surtout moins cher? Contactez l'équipe Oricom, ici à Québec depuis 25 ans. Nous ne sommes pas le spécialiste pour rien. Visitez oricom.ca ou faites le 418-683-4557.
Il va électriser votre printemps. Le Rockabilly d'Israël Proulx arrive.
Tant qu'il me reste quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je serai fier. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain.
L'album 12 titres Cupidon, disponible sur toutes les plateformes numériques.
On a besoin les uns des autres. Même éloignés, on a besoin de se rapprocher. Pour se soutenir au lieu de se décourager. Pour se serrer les coudes au lieu de se diviser. Aujourd'hui, ayons une pensée pour ces gens extraordinaires, ces héros du quotidien qui prennent soin de nos aînés dans les résidences. Saluons les aînés, résilients et courageux, qui se joignent à l'effort collectif de tout le Québec. Restons unis, gardons nos distances. Un message du Regroupement québécois des résidences pour aînés.
Monsieur le Premier ministre, les conventions collectives en santé, en éducation et enseignement supérieur arrivent à échéance. Sérieusement, vous voulez négocier en temps de crise? Nous, on veut pouvoir dire « ça va bien aller ». C'est votre responsabilité. Un message de la Centrale des syndicats du Québec.
Centraide est en première ligne toute l'année. Mais avec la COVID-19, on est sur le terrain plus que jamais. Les ressources manquent, les besoins, eux, augmentent. Pour répondre à la crise, on a créé le fonds d'urgence Centraide. On vous mentira pas, on a besoin de vous. Parce que la diminution des services, ça touche directement les plus vulnérables. Quand le réseau communautaire en arrache, des gens en souffrent. On a besoin de vous, maintenant. Centraide aide, mais pas sans vous. Centraide-Québec.com.
Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec.
Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains.
Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
C'est mardi. Pierre, retraité, c'est gâté. Un beau cerisier puis une mine excavatrice. Wow, Pierre creuse. Pierre connaît pas Info-Excavation. Pierre brise un câble électrique. Pierre aura pas de cerise cet été. Puis son spa va rester froid. Info-Excavation. Sans passer, ce serait dommage.
Le Québec est sur pause. Mais les services essentiels, ça, chez nous, c'est essentiel. Vous êtes en recherche d'emploi? Vous recherchez des employés? Ensemble, sauvons nos emplois. Facilitons le contact entre l'offre et la demande d'emploi. Chez nous, employeurs, chercheurs d'emploi. Textez emploi au 25226. Textez maintenant emploi au 25226. Ensemble, sauvons nos emplois. Une initiative Cogeco Média.
Bouchard en parle. Maintenant, au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
14h22, on va vous faire entendre le premier ministre François Legault, à tout le moins quelques extraits, parce que le point de presse d'aujourd'hui à 13h était important. On est rendu à plus de 4000 cas. Oui. C'est la plus grosse augmentation depuis le début. C'est près de 700 cas de plus, si je ne m'abuse.
Exact.
Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. L'autre, c'est que d'ici peut-être 3 jours, peut-être 7 jours, dépendamment, on pourrait manquer de matériel médical. On en a encore jusqu'à dans 3 ou 7 jours. Mais là, il y a des commandes qui peuvent arriver entre-temps, le PM le dit, mais on va se croiser les doigts. Donc, Jean-Simon, c'est pas vraiment des nouvelles encourageantes qu'avait annoncé M. Legault aujourd'hui.
Commençons justement par ça, la situation du matériel présentement dans les hôpitaux pour les travailleurs de la santé. On peut écouter le premier ministre François Legault et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, à ce sujet.
Je veux aujourd'hui être clair, je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours et on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, je veux pas inquiéter personne.
Il faut vous dire là qu'actuellement, on utilise 10 fois plus d'équipements qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en 4 semaines, à peu près.
Ce que Mme Mécan dit, c'est vrai, puis on est compréhensif, on comprend ça. En même temps, le PM a ajouté que l'Ontario va nous en envoyer.
Oui.
Imaginez la situation inverse. Mettons que c'est Doug Ford qui appelle François Legault, puis il en envoie. Quand on a appris que Trudeau avait envoyé du matériel médical en Chine, ça n'a pas bien passé partout, là, vous vous en souvenez?
Mm-hmm.
Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Bon. Je pense pas qu'on en a parlé beaucoup, là, mais j'ai vu passer sur les médias sociaux que des gens ont contesté ça. C'est tel que tel. Là, c'est l'Ontario qui aide le Québec. Là. Alors, eux autres, ils doivent en utiliser aussi beaucoup des masques, non?
J'imagine. Ils ont plus de décès que nous autres.
Ben oui.
Alors, quand Mme Mécan dit, c'est parce qu'on en utilise, beaucoup. Eux aussi en Ontario, puis ils nous en envoient, puis ils vont nous aider. Autre extrait.
Oui, bien, c'est ça. Évidemment, là-dessus aussi, là, ils ont confirmé que les masques N95, les fameux masques qui sont utilisés là, comme mesure d'urgence, vont être désinfectés pour servir à plus d'une reprise. Mais là, le Collège des médecins s'inquiète de la situation puis se demande si les médecins puis les autres professionnels de la santé vont être obligés de traiter des malades. Tu l'as évoqué un peu tantôt, là, ouais. Sans protection. On peut écouter François Legault là-dessus.
Pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit de procéder à des actes sans être protégé. Là. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré, travaille très fort sur les commandes, travaille très fort avec l'Ontario, travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape où on dit aux gens, faites des opérations là, sans vous protéger. On n'est pas là du tout, là.
Non, je comprends ce que M. Legault veut dire. Il demande pas aux gens d'aller opérer sans protection. Mais sur le terrain, je vous jure que des infirmières sont allées soigner des patients sans protection, sans toute la protection nécessaire. Elles l'ont fait à leur risque et péril, et certaines sont malades et infectées. Ces infirmières-là avaient demandé de la protection. Elles n'en ont pas eu. Elles ont décidé d'aller au combat pareil. Alors, mais je comprends, mais je ne veux pas contredire M. Legault. Lui, il dit, on ne vous le demande pas. On n'est pas rendu à demander. Il a raison. Mais sur le terrain, ça se fait déjà. Mm. Peut-être pas au niveau des médecins, mais au niveau des infirmières, oui. Si vous avez des témoignages, d'ailleurs, écrivez-nous à 25-226. On veut le savoir.
On a eu des exemples, ne serait-ce que Rosalie qui nous expliquait à l'urgence là, quand le patient a menti qu'il n'y avait personne au triage pour porter un masque, puis finalement, ça a été implanté par la suite. C'est des cas, il doit en avoir un peu partout au Québec présentement. Sur la question des masques, Sylvain, on en a parlé un peu hier avec Jonathan Bernard et notre collègue Louis Lacroix est revenu là-dessus.
Oui.
Tendance « masks for all », ça commence à circuler. Il y a des médecins qui sont en arrière de ça également. La réponse du docteur Horacio Arruda là-dessus.
Le port du masque peut premièrement entraîner, augmenter la distanciation sociale, parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous demandez, est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il porte en protection, vous vous éloignez. Fait que, dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera si quand on en aura des millions à donner, on verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis, est-ce qu'effectivement, un tissu, parce que épais, peut diminuer l'exposition des gouttelettes, potentiellement, mais probablement pas au même taux que le masque chirurgical. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question, puis je vais vous dire, on va le regarder. On va le regarder selon la situation. Mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais l'alternative à une mesure de distanciation sociale, et puis, parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui le surveille. Donc, vous comprenez là que l'importance, oui, le masque peut être un instrument. Oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins. Oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologique ou autre, mais par contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire.
Anyway, dans le contexte d'une pénurie possible, moi, je ne pense pas qu'on va lancer un appel à Mask for All au Québec. On peut pas. Je sais qu'ils l'ont fait en République tchèque, je sais qu'ils le font ailleurs dans le monde, en Asie. Mais là, si on manque de matériel médical, là où on en a le plus besoin, malheureusement, je pense qu'il y a un fondement. Ça pourrait peut-être être utile, mais on fera pas ça au Québec.
Même aux États-Unis, Sylvain, d'ailleurs, là, le CDC a commencé à dire que ça se pourrait qu'ils changent leur directive pour ce qui est des masques. Puis le docteur Arruda, vous l'avez entendu dans l'extrait un peu, là, il met pas ça de côté. Il dit des masques en tissu peut-être, mais évidemment pas les masques qu'on utilise pour les travailleurs de la santé. Qu'est-ce qui va rester de la crise dans le réseau de la santé? Parce que les façons de faire dans le domaine de la santé sont en train de changer, évidemment. Et la ministre de la Santé, Danielle McCann, a parlé de changements qui vont être durables.
Le réseau est en train de se transformer. Quand je vous parle là, de consultation par téléconsultation, ça n'existait pas là, à peine dans notre réseau. Actuellement, il y a 30 % des médecins spécialistes en 10 jours qui ont implanté leur plateforme de téléconsultation. Il y en a 12 % au niveau des médecins omnipraticiens en 5 jours. Alors, on continue. Et ça transforme l'offre de services. Et ça va continuer par la suite, là, c'est clair. On peut pas tout faire par téléphone ou par téléconsultation, mais on peut faire beaucoup de choses. Et les gens, souvent, préfèrent ne pas se déplacer non plus. Et le médecin peut faire son intervention de cette façon-là.
Je suis convaincu que Mme McCann a raison et que le réseau sera transformé. Vous êtes d'accord?
Ben oui.
Par contre, l'infirmière qui nous écoute ou le préposé ou le médecin qui rentre à l'hôpital now, actuellement, là, je suis pas sûr que la transformation éventuelle à long terme du réseau vers le numérique, c'est sa priorité. Lui, là ou elle, tout ce qu'il veut savoir, va-t-il avoir un masque dans 3 jours? Oui ou non? Alors, c'est quand même bon de donner de l'espoir puis de rappeler les points positifs de tout ça, qu'on va tirer des leçons, qu'on va s'améliorer. Mais j'essaie juste de mettre dans la peau de ceux qui s'en vont au front, là, cet après-midi, Je suis pas sûr que c'est leur priorité.
Non, c'est juste que la ministre et Legault s'adressent à tous les Québécois, y compris ceux qui sont pas dans le réseau de la santé, qui eux aussi ont des questions. Fait que sur une période de 45 minutes de conférence de presse, oui. Je peux comprendre pourquoi des fois on va toucher à d'autres sujets, là.
Mais les questions des gens qui sont confinés versus les questions des gens qui vont au front, selon moi, la priorité, là. Puis je l'ai dit, j'ai pas l'intention, moi, de chialer puis de critiquer. Au contraire, il faut aider. Il faut aider notre gouvernement. Il y a un gros risque qu'on en manque. On n'est pas encore là. Ils n'ont pas dit pénurie maintenant. Là. Ils ont dit c'est serré. Je vais reprendre les termes exacts qu'ils ont employés. C'est serré, puis dans 3 jours, on pourra manquer. Alors, essayons de les aider. Essayons de se mettre au travail pour ceux qui le peuvent et qui ont les moyens.
Il y a la question du comité de relance qui a été formé par le gouvernement après la crise, bien sûr. Là. Puis ça, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Là, on a appris que c'était Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, Christian Dubé et Jean Boulay. Il y a une question un peu particulière qui a été posée par le journaliste Marc-André Gagnon au premier ministre Legault cet après-midi.
Monsieur le premier ministre, respectueusement, ben, vous savez, sur les réseaux sociaux, on va passer toutes sortes de commentaires, parfois malheureux, mais les gens, quand ils regardent la composition de ce comité de relance que vous avez créé avec 4 ministres, 4 hommes. Ils se demandent mais pourquoi il n'y a pas une femme. Par exemple, pourquoi Mme Guilbeault, qui est vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, n'est-elle pas impliquée? Donc, je vous donne l'occasion de répondre à ce commentaire que j'ai vu passer.
Oui, bien écoutez, vous savez qu'on est à peu près moitié-moitié au Conseil des ministres, mais Mme Guilbeault va continuer à s'occuper de la sécurité publique. Mais ce qui est important, c'est l'économie. Donc, l'économie, on va avoir des dommages importants. Donc, évidemment, ça suppose d'avoir Pierre Fitzgibbon. Évidemment, il va falloir tout financer ça, puis de voir c'est quoi les ressources qu'on a disponibles. Ben, c'est le ministre des Finances. Puis bon, le ministre du Travail, ben, c'est important qu'on ait des travailleurs prêts en toute sécurité à travailler. Donc, c'est comme un hasard, si on veut, que ça soit 4 hommes. Actuellement, la priorité, c'est la santé, puis c'est une femme excellente qui est là, puis qui est Danielle.
Voyons donc, c'est quoi ça?
Quoi?
Non, mais moi, j'ai le droit de parler.
Ouais, vas-y, on t'écoute. Vas-y.
La parole est à toi. Vas-y.
La parole est à toi, Élie.
Non, mais écoute, je peux pas croire qu'il y avait... Y a-tu vraiment des gens dans leur salon au Québec qui ont vu la formation du comité de relance puis qui ont eu comme interrogation comment ça se fait qu'il n'y ait pas de femmes là-dedans? Tu sais, je veux dire, c'est ça vraiment la question que vous vous posez actuellement dans la crise qu'on vit? Il me semble que moi, j'ai une couple d'autres questions en tête avant de savoir pourquoi il n'y avait pas de femmes dans ce comité-là, là.
Merci beaucoup. Merci, Élie. Rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. J'ai une question pour vous, moi. J'en ai une autre. pour les auditeurs et vous autres. Et je sais que, tu sais, ces temps-ci, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent. Il faut faire attention quand on n'est pas expert. Donc, je ne veux pas nécessairement votre point de vue médical parce qu'on n'est pas docteur. Mais... je veux parler de comportement de société. Et là-dessus, je pense que l'opinion des gens, de tout le monde, ça peut valoir de quoi. Je veux vous demander pourquoi on a plus de cas au Québec. Selon vous. Puis, je vais élargir ça un peu. Si vous regardez dans le monde actuellement, avez-vous remarqué qu'il y a des pays plus touchés que d'autres? Oui?
Oui, moi oui.
C'est clair. Ma question. Est-ce que les pays latins semblent plus touchés? L'Italie, l'Espagne, la France. En Europe, c'est eux autres. Regardez le palmarès en Europe, là. Je sais qu'il y a une proximité géographique qui est certainement responsable de ça, mais c'est l'Italie, l'Espagne et la France les plus touchées, mais l'Allemagne, la Suisse, la Grèce, la Serbie, il y a d'autres pays pas loin, par exemple de l'Italie, où il y a eu l'épicentre, je ne sais pas si vous me suivez, là,
oui.
Qui semblent moins touchés, pays scandinaves ou autres. Ici, on regarde en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, et c'est le Québec qui est le plus touché. Alors, on est des Latins. Est-ce que dans notre comportement, notre côté un peu indiscipliné, un peu... comment je pourrais dire ça?
On est insouciant un peu.
Est-ce que y a ça dans notre caractère, dans notre personnalité? On sait qu'il y a des pays, certains pays, où les citoyens sont plus, disons, obéissants, hein, plus disciplinés. Nous autres, est-ce que notre côté plus chaleureux, qui en temps normal peut être perçu comme une qualité, je ne suis pas en train de porter un jugement, le fait qu'on est chaleureux, on aime les fêtes entre amis, la famille, tout ça, on aime se regrouper, se rassembler, ce qui, pour moi, c'est un avantage. Est-ce qu'en temps de crise, ça ne nous a pas joué des tours? Et est-ce que ça pourrait expliquer, parce que La semaine de relâche, là. Regardez le nombre de vols qui atterrit à Toronto. Des vols internationaux. Même pendant la semaine de relâche au Québec. Et c'est même pas serré avec Montréal, là. C'est Toronto qui devrait être l'épicentre. Or, c'est Montréal. Et c'est le Québec. Puis c'est pas de la faute des Montréalais, là. Mais il y a de quoi dans notre comportement. C'est pas une question de blâme qui peut-être explique ça. Qu'est-ce que les gens en pensent au 25-2-2-6? C'est une réflexion que je veux juste partager avec vous. À un moment donné, des experts se pencheront peut-être là-dessus, mais...
Écoute, c'est difficile, parce que c'est difficile en fait à dire notre comportement ici au Québec est différent d'ailleurs au Canada parce qu'on a fait tellement plus de tests que dans plusieurs autres provinces qu'on connaît pas en fait le nombre de cas réels dans les autres provinces. Puis ce que je trouve un peu...
Faire attention, la Colombie-Britannique a testé autant, ouais, sinon plus que nous autres, puis ils n'ont pas les mêmes scores, puis ils ont une importante communauté chinoise. Puis là, c'est parce qu'on se compare beaucoup avec l'Ontario, ouais, mais l'Alberta puis CB, ils ont testé plus que nous autres. Ça peut expliquer en partie, mais pas seulement le fait que c'est vraiment ici qu'il y a le plus de cas.
Non,
on est rendu à la moitié des cas au Canada.
Parce que je regarde le nombre de morts en Ontario, par exemple, en date d'hier, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais hier, il y avait 33 décès en Ontario, et ici au Québec, en date d'aujourd'hui, on en a 31. Fait qu'à moins que les gens qui attrapent le COVID en Ontario meurent beaucoup plus que les gens ici au Québec, il y a une dichotomie par rapport au nombre de cas total qui sont confirmés.
Mais même,
quand même là,
il devrait, ouais, en avoir beaucoup plus en Ontario. Si on te suit, Elisabeth, ils sont beaucoup plus nombreux.
Oui, c'est ça. Il devrait, en fait, il y a plus de décès. Il y a plus de décès que nous, mais il n'y a pas autant de cas que nous. Fait que moi, ça me laisse présumer qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on pense en Ontario.
Mais c'est parce que là, on regarde juste l'Ontario. Si on regarde Alberta, Colombie-Britannique, puis ailleurs, ils ont testé aussi, et toute proportion gardée, ils ont moins de cas qu'au Québec. Alors, est-ce que, puis je reviens à l'Europe, Elisabeth, regarde en Europe, compare l'Allemagne, des pays d'Europe de l'Est ou des...
L'Allemagne, la Suisse ont quand même beaucoup de cas. Par contre, ce qui est différent, c'est le nombre de morts. Clairement, là, en Allemagne, il y a beaucoup moins de morts que dans les pays latins. Ça, c'est indéniable. Puis, il y a certains médecins qui se sont exprimés là-dessus en Allemagne en disant que le peuple allemand, comme d'habitude, faisait preuve d'une discipline de fer. C'est le terme d'un médecin allemand, là. Les Allemands sont un peuple extrêmement discipliné. C'est sûr que quand tu regardes les peuples germaniques en général, là, c'est des peuples qui ont tendance à être plus disciplinés. Les Slaves aussi. En Europe de l'Est, ont tendance à être habitués à suivre les consignes un peu. Les Asiatiques également.
Les Coréens.
Oui, ça c'est certain. Mais probablement qu'il y a un peu des deux. Je pense que dans tout ça, il y a certainement le fait qu'on teste beaucoup au Québec, probablement ça qui explique un peu ça. Et il y a probablement aussi un peu de cette chaleur humaine latine qui fait en sorte que les pays qui ont le plus de cas en général en Europe, tout ça. Ceux qui ont eu le plus de difficultés à déserter les cafés, les restaurants, on pense à l'Italie, on pense en France où ça a pris vraiment la fermeture parce que les cafés étaient plein au moment où est-ce que le gouvernement Macron a décrété la fermeture des cafés et des bars. C'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais à mon avis, là, dans les prochaines décennies, il va y avoir une multitude de thèses de doctorat qui vont être écrites sur le comportement de tous, ouais, ces peuples-là par rapport à la pandémie, c'est certain.
Et peut-être que notre côté, peut-être que le facteur culturel va rentrer en ligne de compte. Peut-être. Je fais juste le soumettre comme une hypothèse.
Au 25-2-2-6, il y a plusieurs personnes qui parlent des snowbirds et du retour des vacances. Ici, au Québec, on a des gens qui quittent pour l'hiver puis qui reviennent à ce temps-ci de l'année. Que c'est peut-être pas... Que le retour de voyage en tant que tel est peut-être pas dans la peut-être pas culturel comme dans d'autres pays. Mais en même temps, si tu regardes, bien, c'est sûr que si tu compares à l'Ontario, il y a beaucoup moins de gens qui ont atterri à Montréal au cours des dernières semaines qu'à Toronto, à Pearson, par exemple. Fait que c'est difficile de prendre l'excuse des voyages.
Mais c'est ça. Même en tenant compte de la semaine de relâche et des snowbirds, ça voyage bien plus à Toronto. Les données sont disponibles. Allez voir. Fait que...
Mais ce qui va ressortir peut-être là, comme facteur le plus important de tout ça, puis ça rejoint un peu ce qui se passe aux États-Unis, tout ça, qui a pris quelle décision quand? Qui était le leader et qui a pris les décisions et à quel moment? On voit ce que ça donne aux États-Unis, où est-ce que Trump a minimisé pendant longtemps la crise, où est-ce que les consignes divergent d'État en État, de comté en comté, ouais, de ville en ville, ouais, en Europe, où les mesures ont été prises très tard, alors qu'ici, ben, les mesures ont été prises tôt, puis il y a un certain leadership. Tu prends les États-Unis, c'est pas un peuple latin, là. C'est des anglo-saxons. Mais le leadership a été soit déficient, soit pas cohérent. Fait que ça fait en sorte qu'on voit une augmentation des cas puis des morts présentement.
Mais Sylvain, il y a un bon point au 25-2-2-6 concernant l'aéroport de Pearson versus Montréal par rapport au fait qu'on dit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui atterrissent à Pearson, fait qu'il devrait avoir plus de cas en Ontario. Quelqu'un nous dit les vols internationaux qui arrivent à Toronto sont bondés de Québécois qui doivent prendre un autre vol interne pour arriver à Montréal ou à Québec.
C'est pas tous des gens qui s'en vont résider en Ontario, vous, ouais, avez raison. Mais On parle de décision. Je pense que Jean-Simon avait un bon point. Il y a le facteur culturel et il y a le facteur leadership. Hein? Puis je pense que les deux sont là, ça va s'additionner. Côté leadership, et c'est juste une question. À date, si je regarde la population au Québec, dites-moi si je me trompe, on est dans l'ensemble très satisfait de ce que Legault a fait, le Dr Arruda. Vous êtes d'accord?
Oui.
Bon. Sauf que j'ai regardé la carte région par région encore aujourd'hui. Et je m'excuse, mais d'abord, c'est Montréal, ils ont plus de 1900 cas. Et quand tu regardes les autres régions maintenant, OK, capitale nationale, là, tu sais, au début, on était 4 ou 5, là, ben ça peut être une bonne nouvelle, mais là, on recule constamment parce que ça se répand. Et après Montréal, là, t'as l'Estrie, t'as la Montérégie, oui. T'as les Laurentides, t'as Laval, toutes des régions, Lanaudière, toutes des régions où il y a moins de monde que Québec, sont toutes en avant de nous autres. Tu regardes la carte, là, puis on serait quasiment en mesure de dessiner des genres de cercles concentriques. Hein? Comme une roche, là, comme une roche qui tombe dans l'eau. Vous savez de quoi je parle?
Oui.
Les cercles, bon. Le Québec, hier, on a eu une bonne augmentation en passant hier. Aujourd'hui, on en a une pas pire. Mais c'est encore relativement stable et épargné par rapport à ailleurs. Et j'ai écouté une entrevue avec la mairesse de Montréal plus tôt ce matin. Elle disait encore qu'il n'était pas question de confiner totalement ou de barrer les accès. Ça, moi, je questionne ça un peu. Là. Permettez-moi, là, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne bloque pas plus, de façon plus ferme, les transports entre Montréal et les autres régions? Regardez la carte, c'est des cercles concentriques. C'est clair que ça part de là, pas parce qu'ils sont pas bons, là. Il y a rien de ça, ce sont des facteurs. L'aéroport, le nombre de personnes, la densité, c'est juste ça. Je dis même pas qu'ils suivent moins les consignes que nous. À la limite, ils suivent peut-être mieux, je sais pas. Mais malgré tout, l'environnement à Montréal fait en sorte qu'il y a plus de cas. Je comprends pas pourquoi on barre pas. Je comprends pas pourquoi les leaders de Québec, on en a ici des maires dans le coin, le demandent pas. J'ai l'impression qu'ils vont le faire. La mairesse a encore dit à Montréal, c'est loin d'être exclu et ça peut changer. Puis elle a comme dit aujourd'hui, on va préparer les gens, on le fera pas du jour au lendemain. Je sais pas si vous l'avez entendu.
Ouais.
On a l'impression qu'elle prépare ça, hein? Mais pourquoi pas le faire? Je sais que ça demande du courage, mais je pense qu'il faudrait le faire.
Ben, je trouverais ça un peu niaiseux, Sylvain, que toutes les maires de toutes les grandes villes, sauf Montréal, prennent la décision de fermer leur ville, mais pas Montréal. T'sais, à un moment donné, c'est clair que les cas les plus nombreux sont là-bas. C'est à eux de fermer leur ville. C'est pas au reste du Québec de fermer, mais on laisse Montréal ouvert, par exemple. T'sais, t'imagines-tu comment ça serait contradictoire?
Je sais. Hey, la proportion, Élie, là, à Montréal, il y a à peu près 1900 cas.
Oh oui.
J'arrondis, là. Puis à Québec, 200.
Oh oui.
Fait que, puis c'est un peu plus de 200, là. Fait que c'est pas loin de 2000 puis 200, parce qu'il y en a un peu plus que 1900. Fait que c'est 10 fois plus. La proportion, à 13 heures, tantôt, je l'ai vérifié avec les chiffres les plus récents, il y a 10 fois plus de cas à Montréal qu'à Québec. Ils sont loin d'être 10 fois plus nombreux, là. Donc, la contamination communautaire, elle est vraiment commencée sur l'île. Mais pour l'instant, on n'annonce rien. Ça me déçoit un peu. Vous en pensez quoi? 25-226, on s'en va à la pause, 14h44.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au jeudi, 16h40.
Au FM 93.
Unicanva, le plus grand spécialiste des abris et auvents sur mesure au Québec, est disponible en ces temps de crise pour les travaux essentiels. Par exemple, Unicanva fabrique des abris sur mesure pour les centres de prélèvement de COVID-19. Il fabrique aussi les murs protecteurs de tout genre et sur mesure dans un délai de 24 à 48 heures. Et puisqu'il fabrique des auvents depuis 65 ans, on peut dire qu'ils connaissent ça. Contactez Unicanva, unicanva.com.
Je vous parle de simonlaberge.com. Ben oui, même au temps du coronavirus, il y a encore des gens là, qui veulent acheter, qui veulent vendre leur propriété. Ouais, ça doit être différent un peu, hein? Oui. Il faut s'adapter. Et c'est ça qu'on a fait chez les numéros 1 au Québec, simonlaberge.com. Alors évidemment qu'on est plus au téléphone, on est plus sur le web, on est plus dans la vidéo, on a pris une série de mesures pour éviter au maximum les contacts. Même les notaires, en passant, peuvent faire plein d'actes désormais à distance, signatures électroniques et autres. Alors oui, il y en a qui n'ont pas le choix, là, c'était prévu, ils déménagent, ils s'en vont, ils veulent vendre rapidement. simonlaberge.com, le meilleur réseau de contacts. On continue à travailler fort. Évidemment qu'on s'est adapté, on se regroupe plus, on évite les contacts, mais avec notre puissance sur le web et tout, on est capable, même en temps de crise, de vous livrer vraiment le meilleur travail. simonlaberge.com.
Question d'entrepreneur numéro 32.
Patron, en connaissez-vous un, vous, là, un dragon?
Mallette, réponse en financement pour PME. Question d'entrepreneur numéro 35.
Hey patron, les comptes à payer, c'est-tu la boîte à souliers bleus ou ben donc la boîte à souliers rouges?
Mallette, réponse en service comptable pour PME. Question d'entrepreneur numéro 50.
Hey patron, avez-vous vu ça? Trump vient d'être élu pour un deuxième mandat.
Mallette, réponse en transactions immobilières à l'étranger.
Il va électriser votre printemps. Le Rockabilly d'Israël Prou arrive.
Tant qu'il me reste quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je serai père. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain.
L'album 12 titres Cupidon, disponible sur toutes les plateformes numériques.
Au Groupe La Tanière, nous avons songé au meilleur moyen de vous faire vivre l'expérience gastronomique de nos restaurants dans le confort de vos foyers. Les chefs ont donc collaboré afin de créer une solution de prêt-à-cuisiner conçue sur mesure pour embellir vos fins de semaine. Trois somptueux repas, entrée, plat principal et dessert. Trois menus d'exception signés Groupe La Tanière à seulement 150 $ pour deux personnes. Réservez à kermesse.com. La seule façon de commander. Kermesse, K-E-R-R-M-E-S-S.com.
Monsieur le Premier ministre, les conventions collectives en santé, en éducation et enseignement supérieur arrivent à échéance. Sérieusement, vous voulez négocier en temps de crise? Nous, on veut pouvoir dire « ça va bien aller ». C'est votre responsabilité. Un message de la Centrale des syndicats du Québec.
Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec.
Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède, et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains.
Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
Vous faites du commerce en ligne et vous contribuez à l'essor de l'économie québécoise? Inscrivez-vous à la liste des entreprises de commerce en ligne québécoises et faites-vous connaître. Cette initiative de Cogeco Média vous permet de figurer sans frais sur une liste qui sera mise à la disposition des consommateurs via notre site Internet. Pour vous inscrire, rendez-vous au fm93.com. Et si vous remplissez les conditions, le nom de votre entreprise sera ajoutée à la liste. Plus de détails au fm93.com.
Bouchard en parle. Maintenant, au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
Il semble avoir besoin d'une tonne un peu plus tôt. Hein, parce que les nouvelles sont pas très encourageantes aujourd'hui, on vous l'a dit, le nombre de cas a explosé au Québec maintenant. Et on craint en plus une pénurie de matériel médical. Je ne vais pas revenir là-dessus, là, on en a parlé en masse, mais il me semble que la toune, d'habitude, c'est vers 15h30 à peu près qu'on se paye une toune. Peut-être
ouais,
avant,
ouais,
là.
Aux environs deux.
Ouais. Alors, Jean, tu peux en mettre une stand-by, mais juste avant. Reportage fort intéressant que Jean-Simon va nous partager sur la Chine. Vous savez que depuis le début de cette pandémie-là, on est tous devenus des experts en stats, hein? En mathématiques, en tableaux, en courbes, en Excel. On est tous là-dedans.
Ouais.
Et on se base beaucoup pour analyser la situation en Italie, par exemple en Espagne, en France ou encore chez nous. Sur la Chine, vous êtes d'accord?
Oui.
Parce que c'est les premiers. Fait que c'est chaque fois que quelqu'un, par exemple, dépasse le nombre de morts en Chine, qui est aux alentours de 3000?
3300 à peu près.
Ouais. Fait que, hey, on dépasse la Chine, l'Italie l'a dépassé, l'Espagne, puis là, bon. Notre comparaison, tu sais, notre comparaison, ouais, c'est ça, c'est toujours la Chine.
Ouais.
Est-ce qu'on est sûr d'avoir les bons chiffres, les amis? Vous connaissez un peu le régime chinois. Ça se peut-tu qu'ils nous aient pas tout dit? Jean-Simon.
C'est un reportage de France Info qui s'interroge sur quelque chose qui passe beaucoup, notamment sur les médias sociaux chinois ou par des Chinois qui, évidemment, sont très prudents et anonymes là, dans ce qu'ils partagent. Mais c'est concernant notamment les funérariums à Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants. Donc, un endroit où est-ce qu'on va faire la crémation des corps, notamment. Or, depuis déjà quelque temps, dans les funérariums, on explique que 500 cendres de personnes qui sont décédées vont être remises aux proches. Et tu vois les gens qui s'attroupent à chaque jour, là, et ça jusqu'à la mi-avril à peu près. Et là, ce sont des blogueurs qui commencent à faire des calculs puis dire ça fait aucun sens. Là, la quantité de morts présentement et l'espèce d'activité dans les funérariums à Wuhan, c'est quelque chose de complètement non cohérent avec ce qu'on avance comme chiffre. Je vais vous faire écouter une experte qui est interrogée dans ce reportage-là qui s'appelle Marie Holzman. C'est une sinologue, donc une experte en affaires chinoises, en gouvernement chinois notamment, qui explique le calcul des blogueurs par rapport à ce qui se passe dans les funérariums de Wuhan.
Étant donné qu'il y a en gros 8 grands funérariums à Wuhan, on fait l'addition, hein, 6 fois 8, 48, on arrive à 48 000 morts. Donc là, on est dans des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on disait jusqu'à présent.
Hey boy, c'est pas pareil pantoute, là.
Non, pas du tout. Alors, elle avance évidemment que ce chiffre-là. Bon, faut faire attention.
Ouais, faut faire attention à ça, là.
Tu sais, d'abord, il y a des gens qui sont morts d'autre chose. C'est une ville de 11 millions d'habitants, là. C'est pas toutes des gens qui sont morts de la COVID-19. On n'a pas de preuves en lien avec ça. Mais par contre, dans le reportage, il y a un journaliste indépendant chinois. Il faut être courageux, être journaliste indépendant chinois en Chine, là, en passant, là. Il est allé dans un funérarium pour filmer ce qui s'est passé. Il était entre 22h et 23h. Et puis il dit, ça n'a pas de bon sens qu'à cette heure-là, ça soit encore à pleine capacité, ça roule encore. Et en passant, mauvaise nouvelle, il est disparu depuis la publication de ce reportage.
C'est pas sérieux?
Non, c'est pas drôle, il est vraiment disparu. Là. Il le dit dans le reportage.
Ben donc,
il a filmé ce qui se passait à l'intérieur d'un funérarium. On n'a plus de nouvelles, là, ce journaliste-là, depuis que ça a été publié. Alors évidemment, la sinologue dit, ne vous fiez pas au gouvernement chinois. C'est un gouvernement, ce sont des autorités qui ont l'habitude de mentir et de cacher des chiffres à la population.
Mais ça, c'est
il faut connaître l'histoire de la Chine pour savoir que c'est un réflexe de ce pouvoir. Regardez, il y a 30 ans, on a eu le massacre de la place Tiananmen. Au bas mot, il y a eu 1500 morts à Pékin. Ça, on le sait, parce que le soir du massacre, il y a eu beaucoup de témoins qui étaient dans les hôpitaux, tout le monde n'est pas mort. Eh bien, 30 ans plus tard, on est arrivé à faire une liste d'environ 200 noms. 200 personnes ont accepté de dire « mon fils, mon mari, ma grand-mère » ont été tués ce soir-là. Tous les autres ont eu peur.
Mais ça, c'est grave, on m'a dit, parce que, admettons que c'est, là, prenons pas 48 000, là, mettons que c'est 20 000, OK? Je sais pas, au lieu de 3 000. Ça se peut-tu que les Européens, et nous aussi, les Nord-Américains, puis tout le monde, là, qu'on se serait beaucoup mieux préparé si on avait saisi toute l'ampleur de la crise en Chine?
Ben,
parce que là, 3 000, là, je vous rappelle que la grippe saisonnière fait 3 000 morts au Canada par année.
Mais oui. C'est exactement ce que j'allais dire, Sylvain. C'est ça que tout le monde disait au début de cette crise-là, parce que le chiffre 3 000, on ne trouvait pas ça... c'est 3 000 morts de trop, on s'entend. Mais c'était un chiffre qui n'était pas gros comparé à d'autres types de morts qu'on voit ici au Québec. Mais si on a vu les vrais chiffres, personne n'aurait dit « Ah, oh, c'est comme la grippe saisonnière ». Personne n'aurait dit ça. Là.
Parce que là, Sylvain, on est déjà à 12 500 morts en Italie, 8 300 en Espagne. On vient de franchir la barre des 3 000 en France. On est à près de 3 000 en Iran, qui est un régime pas nécessairement très transparent non plus. Là. On approche de ça au Royaume-Uni également. Donc, tous des pays avec des populations infiniment moins élevées que la Chine. À un moment donné, plus le nombre de morts augmente dans ces pays-là, plus les chiffres avancés par les autorités chinoises deviennent invraisemblables.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est bien beau. Là. Je sais que ces temps-ci, les Chinois nous envoient du matériel médical, là. Puis ils nous aident un peu, puis tout le monde, hey, merci la Chine, merci. Mais s'ils nous ont caché ça, ben il y a une forme de responsabilité. Là, oui.
Ben oui, puis on n'a pas arrêté de dire avec raison, Sylvain, qu'on était chanceux au Québec de ne pas avoir été le premier endroit dans le monde touché parce qu'on a pu se fier sur les erreurs de l'Italie et les erreurs des autres pays pour réagir rapidement. Mais l'Italie n'aurait peut-être pas fait cette erreur-là si la Chine avait donné de vrais chiffres dès le départ. Elle aurait dit, oups, la journée que ça va arriver chez nous, il faut qu'on soit prêt. Regardez combien ça touche des gens là-bas.
On sait que c'est quelques travailleurs chinois qui ont contaminé là, en Lombardie, dans le nord de l'Italie au début. Là, hein? Ça a été raconté. Peut-être qu'ils n'auraient pas laissé rentrer s'ils avaient su qu'il y avait eu 50 000 morts en Chine ou qu'ils auraient pris des précautions, qu'ils auraient dit à ces gens-là, écoutez, retournez chez vous, il y a trop de danger, ou qu'ils les auraient mis en quarantaine. Comprenez ce que je veux dire.
Ben oui.
Là, ils les ont laissés aller, puis c'est parti.
Puis il y a des dommages collatéraux là-dedans, Sylvain. Puis ça me permet de t'en parler. J'ai eu des échos de médecins en Italie dans les derniers jours via une personne interposée qui connaît des médecins qui travaillent là-bas. Puis ce que cette personne-là m'a dit, Sylvain, c'est... Le nombre de dépressions chez les médecins dans les prochaines années, ça va être hallucinant. Pourquoi? Cette personne-là m'a dit, les médecins en Italie, pas plus que partout dans le monde, ne sont pas formés pour regarder quelqu'un dans les yeux et dire, toi, je ne te soigne pas à cause de ton âge.
Mais non, c'est l'inverse de ce qu'ils sont supposés faire.
Exactement. C'est exactement ce qu'elle disait. Elle dit, moi, je connais deux médecins en Italie, puis les deux, là, c'est des gens qui ont été formés pour sauver la personne devant toi qui est en train de mourir. Et là, ce que le gouvernement demande à ces médecins-là de faire, c'est de dire, tu vas décider entre la personne 1 et la personne 2, laquelle tu vas soigner, et tu vas annoncer à l'autre que tu ne la soigneras pas.
Oui, puis au début, je sais que ça a changé, puis ça, ça me tombe pas d'aller plus loin là-dedans un peu, mais je vais checker un peu, là. Ça se parle pas trop, mais au début, c'était genre, ils soignent pas le monde en bas de 70 ans. Vous avez
en
déjà
haut.
Entendu ça, là?
Ouais.
Excusez-moi, en haut. Ouais. En haut de 70 ans. Mais à la fin, je suis tombé sur des infos, c'était rendu en haut de 60, ouais. Des fois, dans certains cas. Évidemment, c'est du cas par cas, il n'y a pas de politique officielle, là, ce que je vous dis là, là, mais c'est des témoignages glanés ici et là. T'imagines-tu, là?
Mais c'est
en
toi, t'es 60, le médecin.
C'est jeune en tabarouette.
Ben oui,
là.
Puis toi, t'es le médecin qu'il faut qu'il annonce à la personne, père de je sais pas combien d'enfants, qui a des petits-enfants. Désolé, je te soigne pas. C'est les médecins en Italie, les médecins italiens vont pas bien présentement. Puis vont, j'ai compris de pas bien aller. Puis ils sont très inquiets pour leur santé mentale une fois que cette crise-là va être terminée.
14h56, très bon reportage donc qui remet en question les chiffres de mortalité en Chine. Ça va tout changer parce que même sur le taux de mortalité du coronavirus, on s'est basé sur quoi au début?
C'est
pour donner des 1 ou des 2%, on s'est basé sur la Chine. Alors, est-ce que c'est vraiment 1 ou 2 ou je sais pas quoi, je sais pas si vous me comprenez.
Oui.
Tout part de là. Alors si les chiffres, si la base est pas bonne, ça se peut qu'on se soit un peu trompé. Ce serait le temps d'une toune, hein?
Oui, pourquoi pas?
Vraiment, il fait soleil aujourd'hui en passant. On est quand même chanceux. Je sais pas si vous êtes allé dehors. Il faisait beau
c'est
aujourd'hui.
C'est tellement beau,
oh,
là.
C'est encore une fois une belle journée. Je pense que ça va changer dans les prochains jours, là, un peu, hein?
T'as-tu peu? Ben, en fait, c'est ça qu'on annonçait hier, là. T'as peu, je vais prendre les prévisions,
ouais,
les plus...
Il annonce pas encore une petite tempête, là?
Oh.
Non, effectivement, pas c'est pas beau. Demain, puis jeudi, c'est de la neige ou de la pluie là, pour les deux jours.
Bon, dans ton stock de tounes, parce qu'on l'a dit, hein, merci aux artistes qui produisent toutes sortes de chansons puis de patentes pour nous aider à passer à travers la crise. Moi, ça me fait du bien. C'est bon pour le moral. On a besoin de ça aussi. Fait que j'essaie de choisir la plus drôle ou la plus encourageante. Ou je sais qu'on en a toujours deux, trois. Suggérez-nous-en également sur 25226. Alors, le choix s'est arrêté sur...
Jean, il aimerait ça faire jouer celle de Patrick Normand.
En fait, c'est sa conjointe qui reprend une des chansons de Patrick Normand. C'est elle qui chante dans la chanson.
Okay.
C'est « Ne laisse pas passer la chance d'être aimé ». Mais dans le fond, c'est elle qui chante puis est accompagnée de Patrick Normand à la guitare.
Si tu crois que le gouvernement serre un peu trop les dents et tu vois que l'univers entier s'écroule autour de toi, n'oublie pas, tu dois le faire pour toi, ta famille, tes amis. Ouvre dans ton cœur, je sais pas te faire peur, écoute ce qu'on te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être chez toi. Le monde crie au secours.
Allez.
Fais ce geste d'amour.
Fête du 47, votre allié de fin de semaine. Optez pour la boîte gourmande pour deux du 47 à la maison. Cette semaine, découvrez la France du chef propriétaire Joseph Sarrazin. 7 mai, dégustez dont la joue de bœuf braisé à $64,95 pour deux. Disponible du jeudi 2 au samedi 4 avril.
Planifiez dès maintenant votre week-end pascal avec la boîte gourmande du 47. Homard, crabe et jambon de Pâques au menu.
Avec la boîte gourmande du 47, gardons le moral, achetons local.
Sous réservation seulement, pour emporter ou livraison à domicile, voir le47.com.
Besoin de sortir pour acheter de la nourriture ou pour un déplacement essentiel? Contactez Taxi Coop 5191. Ils suivent toutes les consignes pour vous conduire en toute sécurité. Service de livraison 24 heures sur 24. Téléchargez maintenant l'application Taxi Coop.
Ouf! Faut que je m'occupe de mes impôts.
Ah, moi, ça avance. J'ai déjà imprimé mon relevé de médicaments.
Et que t'es efficace.
Y a rien de compliqué. J'imprime ça directement de mon dossier en ligne, Jean Coutu.
Une chance qu'il y ait au moins notre pharmacien qui nous simplifie la vie.
Votre dossier santé en ligne vous permet d'imprimer à partir de votre ordinateur un relevé officiel de vos achats de médicaments pour compléter votre déclaration de revenus. C'est simple, confidentiel et gratuit.
Ce service vous est offert par votre pharmacien propriétaire affilié à Jean Coutu.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Si vous cherchez un appartement, un condo locatif ou un local commercial, n'hésitez pas à contacter les Immeubles Roussin. Nous avons tout mis en place afin de vous permettre de trouver l'unité qui vous convient en assurant votre santé et votre sécurité. Nos conseillers d'expérience sont en mesure de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin par téléphone ou par courriel. Ils peuvent même vous offrir des visites virtuelles en temps réel. Il vous sera possible de prendre une décision éclairée sans avoir à vous déplacer et même de signer votre bail de façon électronique. La santé des clients et employés des immeubles Roussin est une grande priorité. Et nous ne laissons rien au hasard afin d'assainir nos nombreux locaux résidentiels et commerciaux. Visitez-nous immédiatement sur immeubleroussin.com ou appelez au 418-651-9443. Nous saurons trouver votre unité en toute sécurité. 418-651-9443. immeubleroussin.com.
Lavage de main à répétition? Mains irritées et sèches. Cutibase Crème à main répare et protège. Disponible en pharmacie. Faites-en la demande. Cutibase Céramide Crème à main est faite ici au Québec.
Chez Easy Financière, nous comprenons que des situations imprévues peuvent occasionner un stress financier. Si vous cherchez une solution financière fiable, sachez que nous sommes là pour vous aider. Avec des prêts jusqu'à 45 000 $ Easy Financière peut vous aider à obtenir l'argent qu'il vous faut dès aujourd'hui. Notre engagement d'aider nos clients chaque jour n'a jamais été aussi fort. Pour en savoir davantage, consultez easyfinancière.com ou appelez votre succursale locale. Easy Financière.
Voler la vedette au karaoké, c'est pas toujours facile. Mais vendre sa maison avec un courtier proprio direct, ça c'est facile.
Monsieur le Premier ministre, les conventions collectives en santé, en éducation et enseignement supérieur arrivent à échéance. Sérieusement, vous voulez négocier en temps de crise? Nous, on veut pouvoir dire « ça va bien aller ». C'est votre responsabilité. Un message de la Centrale des syndicats du Québec.
Cogeco Média tient à vous rappeler les principales consignes qui contribuent à minimiser les risques de contagion du coronavirus. Au travail comme à l'extérieur, limitez tout contact de proximité. Évitez les poignées de main, les bises et réduisez vos obligations sociales. Il est aussi très important de laver vos mains régulièrement et d'éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. En cas de toux ou de fièvre, n'hésitez pas à composer le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545.
FM 93, cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec.